On va commencer par un travail en commun ensemble. Et chacun pour soi. On va méditer la parole ensemble pendant une dizaine de minutes. Donc je vais vous donner des feuilles avec des petits crayons, des petits stylos. Et donc pendant 10 minutes, il y a un verset qui est écrit dessus. Je vous demande juste de méditer sur ce verset ou sur une partie du verset. C'est-à-dire que deux mots, vous travaillez que là-dessus. Et c'est pas un verset en entier. Et donc je vous distribuerai des feuilles pour pouvoir écrire dessus. Pendant ce temps-là, la chose la plus dure, c'est que je vous demande de fermer tout autre document. Pas de concordance, pas de téléphone, à part ceux qui ont pas des problèmes visuels, voilà, parfois ils regardent avec sa tablette, mais vous gardez juste ce papier. Ce que j'aimerais, c'est un téléchargement du ciel, et pas au travers d'un autre document, des références de quelqu'un d'autre. Qui sont certes bonnes, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon. Mais ce que j'aimerais, c'est que pendant ces 5-10 minutes qu'on va prendre, il y a quelque chose qui vienne du ciel. Et c'est un défi pour me dire, je vais faire ça ce matin, parce que finalement, c'est tellement simple d'apporter un message classique. Mais dès le départ, j'ai dit, je vais faire comme ça. Et puis hier encore, je bataillais, non, oui, non, oui, non. Puis on dit, je vais faire comme ça. Parce que je crois que Dieu est capable de télécharger dans vous des choses que même moi, j'aurais pas reçues dans le même message. Donc, je vais vous distribuer ces feuilles. Et s'il vous plaît, et si vous avez fini au bout de 5 minutes, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de, dans la pochette violette. S'il y en a qui ne veulent pas, vous êtes aussi libre de ne pas le faire. Hein. On est bien d'accord là-dessus. La seule autre condition, à part le fait de ne pas utiliser d'outils autres que la feuille que je vous donne, c'est si vous avez fini, parce que peut-être dans 5 minutes vous aurez terminé, ben c'est pas grave. Mais alors continuez à prier, soyez dans la reconnaissance. Voilà.
Donc sur un côté vous avez Éphésiens 5:25b. Et tout en haut le verset c'est comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc écrivez ce que Dieu vous donne. Si c'est un dessin, faites un petit dessin. Après, je pense qu'on fera un petit échantillonnage, certains qui pourront partager ce qu'ils ont reçu. Et si vous avez des drôles d'idées qui vous passent par la tête, je dois aller acheter une clé USB pour retenir tout ce que j'ai mis dedans, écrivez-le à côté, ça l'enferme et vous en êtes débarrassé. Et puis en bas, si vous dites, le psaume 37, le psaume 152, le psaume Éphésiens 152, je sais pas, vous l'écrivez en bas. Ça vous permet de dire, il y a toutes ces recherches que je voulais faire, mais que je peux pas faire aujourd'hui. Mais là, vous êtes dans un cœur à cœur avec le Père. Voilà, il est 10h57 à ma montre. Je vais partir pour 10 minutes, jusqu'à 11h07. Ça marche ? Merci Seigneur. Papa, merci parce que tu es en train de télécharger des choses dans les cœurs. Ce que nous, on ne peut pas faire, toi, tu peux le faire. Saint-Esprit, toi qui es cette personne juste incroyable, qui vient révéler les trésors du Père, merci parce que tu vas passer parmi nous et tu vas déverser aux uns et aux autres des perles. Alors merci pour ce que tu vas faire, papa. Amen. Amen. Oui, dites-le au Seigneur, le verset. Parlez-lui. Dites-lui, Seigneur, voilà ce que tu as écrit, voilà ce que tu as dit. Et si vous avez besoin de bouger, bougez. Vous avez un corps, vous n'êtes pas qu'une âme assise. Alléluia. Allez-y, c'est parti. Voilà, maintenant ce que je propose, c'est que ceux qui le désirent, s'il y en a 2 ou 3 ou 4 ou 5, je prévois aussi une dizaine de minutes pour ça, puissiez en 30 secondes, ça c'est un exercice très difficile, 30 secondes, dire ce qui est le cœur de ce que vous avez reçu. Alors, évitez des trucs par exemple, j'ai pris du temps, et alors je ne savais pas trop, et puis à la fin je vais dire ça, et puis... ça va après rien apporter. Au contraire, ça va enlever du temps. Donc juste dites, voilà, ce que j'ai reçu là, cet instant-là. Ça me suffit largement. Et plus les personnes pourront parler, plus ça sera riche. Donc, comme j'aimerais vraiment laisser du temps à chacun, donc c'est 30 secondes. Donc choisissez ce que vous allez dire. Choisissez ce que l'esprit veut dire au travers de vous. Si vous avez écrit 3 pages, c'est pas possible.
Il y en a qui sont très très rapides. Vous avez 30 secondes. Ok, est-ce qu'il y en a qui veulent commencer?
J'étais frappé par l'idée que c'est livré lui-même pour elle, mais elle, l'Église était si petite à ce moment-là. Donc c'est comme Dieu entièrement s'est vidé dans une petite verre, comme une petite verre de communion de Saint-Saint, chose comme ça. Et ouais, voilà, ça fait exploser la tête un peu.
Amen. Wow, super, merci beaucoup.
Dans la continuité, une autre perspective, je voyais que elle, ben, c'est l'épouse et qu'il la voyait au travers de tous les siècles parce qu'il l'a vue avant même la fondation du monde.
Alors moi j'ai marqué, Christ s'est sacrifié pour nous, pour que nous sommes sauvés. C'est à ça que nous avons libre accès par lui. Accès à lui par la croix. Il a tout accompli en passant par son sacrifice sur cette croix. Après, recherche intérieure, ultérieure. Si tu fais un de ces plus petits, tu l'as fait à Jésus.
Amen.
Par son sacrifice, il a rétabli la relation qu'on avait initialement avec lui. Et on s'est détourné avec le péché, mais lui, il a rétabli cette relation.
Alors moi, j'ai vu cette image, je me suis rappelée de ce qui était écrit. En fait, je voyais que quand Jésus était à la croix et que celui qui était à côté lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, délivre-moi ».
Amen. Après, je vais aller par là-bas.
C'est Dieu est amour. Et tout ce qu'il fait, tous ses actes procèdent de l'amour. Et il y a ce mystère de l'amour passionné de Christ pour son Église, parce qu'il a, il la voit avec ce regard non seulement d'amour, mais d'espérance, de foi, et de ce qu'elle est appelée à devenir en elle, par sa rédemption.
Amen. Je vais revenir après.
Ce verset fait suite au commandement « Mariez, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Ça nous parle d'une relation étroite, conjugale, comme celle d'un couple, c'est-à-dire un amour très grand, fusionnel. Une Église imparfaite, souvent mue par la chair, mais Dieu la voit belle, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Il nous a aimé le premier, il s'est livré pour elle, et nous formons pour lui un corps dont il est la tête. L'amour de Dieu est infini, longueur, largeur, profondeur. Il prend notre défense, il est notre avocat, il prie pour nous, il nous représente auprès du Père et rien ne peut nous séparer de son amour. Il pardonne quand nous lui confessons nos péchés, il nous revêt de sa justice comme d'un manteau et pour que nous soyons purifiés de tout péché. Enfin, en retour, nous voulons l'aimer, l'adorer, le magnifier et déclarer que rien n'est plus beau, plus grand que le nom de Jésus parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus.
Amen. Christine Aprani.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est le passé composé. Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle. Et en français, ça n'existe pas, mais il faudrait que ce soit comme en anglais, un passé continu, c'est-à-dire un passé qui n'est pas seulement passé, mais qui continue dans le présent. Christ aime encore l'Église et il se livre encore pour elle. C'est dans le passé, le présent et le futur. Parce que comme disait Manu, c'est avant la fondation du monde qu'il a aimé l'Église. Il l'a aimé avant même que l'Église existe. Puisque l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui croient en lui, qui croient en voilà en son sacrifice, en sa résurrection. Donc voilà, on n'a absolument rien à faire. Même pas croire, puisque même si on est incrédule, bah, il vient en aide à notre incrédulité. Donc Christ, avant même qu'on fasse quoi que ce soit, il s'est livré pour nous, il a abandonné tout ce qu'il était. Il était fils de Dieu et il a abandonné tout ça. Il s'est donné entièrement pour quelque chose qui n'existait même pas encore. Son épouse, l'Église. Voilà.
Merci beaucoup, Annie.
Ok, avant la création du monde, il avait prévu cette relation d'amour avec son épouse et c'est pour cela qu'il s'est livré lui-même pour elle. C'est cette relation que le Seigneur veut restituer, renouveler, faire grandir pour révéler sa gloire et la répandre sur la terre comme au ciel, et faire de nous ses lumières dans les ténèbres.
Dans un premier temps, j'avais l'image d'une brebis blessée, mais normalement une brebis c'est mignon, mais là elle était, franchement elle était vraiment pas attirante, avec plein de débris dans la laine, et j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que ça représente, et il m'a dit c'est l'église, et après bon j'ai décortiqué le verset, donc, aimer, Christ a aimé, et il a aimé d'un amour complet, sans arrière-pensée, d'un amour désintéressé, il s'est livré pour tous les défauts de l'Église, il s'est livré pour son unité.
Moi, il y a un truc qui m'a vraiment frappé, c'est l'insistance avec « il s'est livré lui-même ». Et je trouve que ça fait vraiment ressortir ce décalage entre ce Dieu qui est si grand, qui est maître de l'univers, c'est le grand « Je suis », il était devant le peuple en tornade. Enfin, c'est le Dieu de l'univers et lui, il s'est livré pour nous qui sommes une petite miette de poussière dans l'univers, qui sommes vraiment rien. Et juste ce décalage montre cette grandeur de son amour. Voilà, juste ça, dans ce petit mot.
Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore parlé ? Ok, José, après.
En fait, j'avais noté aussi par rapport à ça que Dieu, il est trois. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Et en fait, le Fils, le Père et l'Esprit se sont déchirés. En fait, ils ont déchiré une partie de lui pour le salut de nous, pour que nous, on soit réconciliés dans notre être qu'il a créé, corps, âme et esprit, pour qu'on soit un avec lui de nouveau. Amen.
Comme Christ, comme c'est de la même façon, ça nous parle du modèle, ça me parle en tout cas du modèle à faire, comme Christ disait lui-même, je fais ce que je vois faire au Père. De même, Dieu nous appelle à aimer comme il a aimé, et aimer l'Église. C'est à ce moment-là, l'Église, elle n'était pas encore vraiment Église, c'était des disciples, mais lui voyait déjà l'Église. De même, Dieu nous appelle à aimer ces gens qui nous entourent, nos régions, les gens qui sont en devenir d'être de l'Église. Amen.
Moi, le parallèle que j'y voyais, c'était avec Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qui a donné son fils unique. Blablabla. Il y a vraiment deux parallèles à partir de ça. Déjà, il y a cette unité Christ-Père, Dieu-Jésus, pour faire ce choix de l'amour. Donc effectivement, comme tu l'avais dit avant, il y avait cette unité avant et cette déchirure ensuite, mais il y avait vraiment cette unité avant, c'était un choix de la Trinité. Ensuite, sur ce même parallèle, il y a l'Église, le monde. Et pour moi, il y a aussi cette vision qu'au début c'était l'Église, mais la vision c'est aussi le monde, car il a tant aimé le monde qui a donné son fils unique.
Moi, ce qui m'a touché, c'est le aimer, ça veut dire se livrer. Et donc, c'est pas seulement un sentiment, l'amour, c'est une action. Et se livrer, c'est rare comme mot dans la Bible. Je trouve que on parle de livrer des prisonniers, par exemple. Je me livre, c'est-à-dire je perds ma liberté quelque part. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça signifie pour moi, aimer l'Église de cette façon-là. Et puis, un jeu de mots, si je me livre plusieurs fois, ça fait délivrer. Je savais que t'allais aimer.
Merci beaucoup. Ok, un dernier. Attends, je vais essayer de... Après.
Oui, c'est justement à cause de cet amour, c'est un amour agapé, parce qu'il y a plusieurs sortes d'amour, et l'amour agapé va jusqu'à la mort. Et donc il a pris la place de l'Église dans sa condamnation pour que l'Église vive, qu'elle soit pardonnée, libérée, justifiée, sauvée, et qu'elle devienne héritière et co-héritière.
Amen. Hyper, très court.
Je rajoute juste parce que ça a été dit, mais il y a quelque chose d'énorme, un verset fulgurant et c'est insondable par rapport à l'introduction, hein, le télescope et tout ça. Ton créateur est ton époux. Ésaïe 54, voilà. Ton créateur est ton époux.
Amen. C'est énorme. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même, j'ai travaillé sur ce message et j'ai aussi reçu d'autres choses ce matin, donc ça m'a percé, comme dans les lignes ennemies, percé, main percée, percé, pied percé. Percer le flanc, percer le front, percer. Alléluia. Dans les lignes ennemies. Bien-aimé, je viens, je cours. Bien-aimé, je te regarde et rien ne peut me retenir. Je te regarde, je t'aime d'un amour infini. Bien-aimé, que sont ces flèches quand tes bras tendent ? Bien-aimé, tu es ma bien-aimée. Bien-aimé, veux-tu m'aimer ? Bien-aimé, veux-tu ? Veux-tu te laisser aimer et aimer ? Tu es ma bien-aimée. Alléluia. En tout cas, un énorme merci pour tout ce que tu as déjà partagé. Il y a une telle richesse. Il y a des choses que moi, je n'avais pas du tout vues dans le message que je voulais apporter. Et je crois que Dieu a comme mis ensemble toutes les pièces d'un puzzle pour donner une certaine image. Et ce que vous avez reçu, personne ne peut vous l'enlever. Vous allez peut-être m'écouter, peut-être vous allez adhérer, mais ce que vous avez reçu, personne ne peut vous l'enlever, parce que c'est vous qui l'avez reçu. C'est pas moi qui vous l'ai dit. Et vous l'avez reçu parce que vous avez pris ce temps avec le Père. Cette méditation de la parole, et c'est juste. Alors en fait, ce message est venu d'un... Bon, l'Église traverse quand même des moments parfois difficiles, et j'ai beaucoup aimé l'image de la brebis blessée, sale, et Christ qui s'est livré pour cette chose, cette histoire de grandeur aussi. On a parlé de cet univers, et puis finalement Dieu qui vient se déverser dans un... quelque chose qui existe à peine. Et pourtant, il l'a fait. Et du coup, c'était jeté dans mes balades en vélo, ou je ne sais plus quand c'était, mais en tout cas, à un moment donné, cette idée était venue. Ouais. Revoir l'Église comme Christ voit l'Église. Parce que finalement, à force de parler des problèmes, des gestions, des finances, d'organisation, moi, quelque part, on perd de vue l'essentiel. C'est quoi l'Église ? C'est quoi ? Pourquoi je ferais tout ça ? Qu'est-ce que l'Église, où elle vient ? Est-ce qu'elle est digne de nos préoccupations ? A-t-elle la valeur ? A-t-elle la pertinence ? Ça sert à quoi tout ce qu'on fait là ? Parce que finalement, si c'est juste pour se faire une bonne réunion de temps en temps, ben... Ok. Alors, première question, qu'est-ce que l'Église, où elle vient ? Est-ce que c'est une organisation, une structure, un groupe de personnes ? C'est bien sûr un peu tout ça, mais tellement plus. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Nous sommes issus de Dieu. L'Église est née de lui. Et j'utilisais plein de versets, mais voyez toujours le mot Église et pas que la personne. Par exemple, quand Jésus va dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien sûr, c'est chacun de nous individuellement. Mais ça veut dire que l'Église doit naître d'eau et d'esprit. Ça a été dit à un moment donné où Jésus parle avec un rabbi, quelqu'un de très grand. Il dit mais et je prends plusieurs versets, mais dans chacun d'eux, essayez de voir la Trinité, pas forcément juste ou le Père ou le Fils ou le Saint-Esprit. Et je veux juste rappeler que le Saint-Esprit, c'est une personne. Parce que parfois, à force de parler de lui en disant qu'il est là, c'est comme si on voyait une espèce d'énergie ou de brume spirituelle. C'est une personne. C'est une personne. Et peut-être vous le visualisez comme un homme ou comme une femme, peu importe. C'est une personne. C'est pas juste un espèce de truc éthéré qui se promène et qui passe de l'un à l'autre. Jean 1. Tout au début, et on parle, c'est l'introduction de l'évangile de Jean, on parle des choses qui sont nées de la chair, pas de la chair. Bonjour le vent, tu vas m'énerver toi aujourd'hui. Moi je vais rester calme. Voilà, merci. Donc on a toute une introduction par rapport à la parole qui était venue, qui a été faite chair, et elle est venue dans le monde. Le monde ne l'a pas connu, elle est venue chez les siens, donc on l'a reçu, mais ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de dire enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que l'Église,
clairement issu de la volonté de Dieu. Ephésiens 1, 5. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, et ça a été dit tout à l'heure, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ephésiens 1, 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même. C'est-à-dire que tu vois que Dieu, il a créé quelque chose en lui et que c'est sa volonté. En Joachim 1, il nous a engendrés selon sa volonté. Jean 6, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté. Et c'est, ça fait partie de tout un passage où Jésus va parler du pain du ciel. Il va introduire la Sainte Cène. Alléluia. Apocalypse 4. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est vrai qu'il y a ces choses matérielles, la création. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'Église a été créée par sa volonté et continue d'exister par sa volonté. Alors, est-ce qu'on a conscience que quand on se réunit, nous donnons une visibilité au corps de Christ? Nous donnons de la matière à ce verset. Que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite. Vous rappelez ? C'est sa volonté que l'Église existe. Donc, quand nous disons que sa volonté soit faite, c'est-à-dire qu'on, alors que nous nous réunissons en tant qu'Église, je crois que c'est la volonté du Père. C'est pas juste, oh, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Bon, pour remplir le temps, parce que c'est le dimanche matin et qu'il y a un culte à faire, et ce serait sympa. C'est la volonté du Père. On est en train d'exaucer sa volonté. C'est Dieu, qui enverrai-je? Nous, on se réunit avec toi, et on se réunit pour toi, et on se réunit avec toi. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est une raison de l'existence de l'Église. Et bien sûr, on doit le faire dans la liberté, dans la grâce, mais aussi dans la reconnaissance et la déférence. Et je dirais, personne n'a le droit de prendre, d'une certaine manière, mépriser ou voler le fait que l'Église se réunisse. C'est pas juste un désir. Il est mort pour ça. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et alors que l'Église n'existait même pas, il a fait ce geste incroyable de se déverser. Alors bien sûr, le salut est individuel, mais il est peut-être, et surtout, à mes yeux, plus collectif. Ce sont deux facettes de la même réalité. Mais le salut a toujours été collectif. Acte 2, 47, un verset bien connu. Les gens louaient Dieu. Et la première église qui trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc il y a bien la dimension personnelle, mais absolument la dimension à l'église. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'a pas ajouté à des organismes, il n'a pas ajouté à tout ce qu'on veut, un truc, puis chacun fait ce qu'il a envie, vous êtes juste sauvés. Il ajoute à l'église. En tout cas, moi, j'ai eu besoin de retrouver un peu le chemin de l'Église. Parce que parfois, c'est ça le chemin de l'Église. D'autres questions que j'avais données tout à l'heure, est-ce qu'elle est digne de nos préoccupations? Est-ce qu'elle a de la valeur? Christ a tant aimé l'Église, s'est livré pour elle? Et nous, on pourrait être, ouais, bon, l'Église, oui, d'accord, c'est cool, quoi, bon, ouais, mais ça m'énerve un petit peu, bon, ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut mépriser le sacrifice de l'agneau, ce qu'on a dit tout à l'heure, en dédaignant ce que Christ a fait? On peut la regarder comme une danserie périssable ou accessoire? Impossible. Et mais j'ai retrouvé, alors c'est toujours une manière intéressante de regarder quand on a parfois un objectif, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et je suis passé à côté de tellement de choses pendant des années. Et une des grandes thématiques du Nouveau Testament, c'est quoi? Bien sûr, on trouvera dans les thèmes, c'est comment gérer l'église, comment faire des réunions, la place des uns, les apôtres, les prophètes, la Sainte Cène et tout ça. Mais si vous regardez le, pour moi, le grand thème, si c'est pas un des thèmes transversaux, c'est l'église. Alors, si vous regardez les versets que j'ai cités tout à l'heure, il y a déjà certains qui ont été donnés. Mais, une autre chose qui était intéressante, c'est, vous pouvez me citer des livres du Nouveau Testament, à part les évangiles? À part les évangiles. Philippiens, Actes, Corinthiens, Thessaloniciens. Ok, vous avez... Ok. Hébreux. Alors, maintenant si je vous dis Gabilérois, Ludovicien, Parisien, Marseillais, est-ce que ça vous parle? Trépourtien, Toulonnais, Brestois, Romain. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous regardez la plupart des débuts de ces épîtres. Les épîtres, ça veut dire une lettre. À qui a écrit ces lettres? Aux églises, pas aux personnes, aux églises. Lettre de Paul à l'église qui est à Corinthe, lettre de Paul qui est à l'église qui est à Rome, lettre de Paul à l'église qui est à Colossiens, à Colosse. Ce sont des lettres aux églises. Dans toute cette partie-là, Romains, Corinthiens, les deux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, c'est des lettres aux églises. Et même après, derrière, quand il va parler à Timothée, ou à Tite, ou à Pierre, ça parle aux églises. Et nous, quelque part, on la réduisa à des... Moi, en tout cas, de cette manière, involontaire, sûrement. Ouais, c'est que c'est des concepts, des trucs à retirer. C'est comme si je voyais que les éléments d'un grand plat, c'est des lettres aux églises. Finalement, ce que je suis en train de voir, c'est que l'église est omniprésente du début, quand il commence à en parler, du Nouveau Testament, quand Jésus en parle avant même sa mort, Matthieu 16, Matthieu 18, avant même, parce qu'elle peut être née que dans cette étape-là, et il en parle tout le temps. Est-ce qu'on se rend compte que c'est des lettres d'amour et de bénédiction aux églises? Finalement, si quelqu'un n'en a rien à faire, c'est ce qu'il fait, il écrit rien du tout. L'indifférence, ou juste des reproches. Mais dans chacune d'elles, il y a parfois des... Et les églises sont reprises, mais à chaque fois, il donne des moyens pour s'en sortir. Elle est omniprésente. Oula, j'écris tout ça.
Oui. Tout va bien.
En tout cas, j'ai repris par exemple aussi Colossiens. Il y a tout un passage dans Colossiens, c'est Colossiens 1, où il y a des choses incroyables. Il parle de tout le salut, il annonce plein de choses à l'église de Corinthe. Et puis, verset 24, et là, je reviens aussi à quelque chose qui a dit tout à l'heure. Jusqu'où on est prêt à aller? Est-ce que je suis prêt à me livrer? Paul qui dit, maintenant je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. Est-ce qu'on se réjouit des souffrances qu'on endure pour l'Église? Et Colossiens, je ne pense pas que Paul y était tous les deux jours. Hein. Je me réjouis. Verset 25, c'est de cette Église que je suis devenu le serviteur. Il n'est pas devenu le grand chef, il est devenu le serviteur de cette Église-là. Ouais, ça, ce que Christ regarde avec tellement d'amour, est-ce que nous on peut le dédaigner? C'est juste impossible. Et puis dans plusieurs autres passages, voilà, qui nous parlent de notre valeur, de notre identité, de notre... 1 Corinthiens 15, alors c'est tout un passage où les gens se passent... Il y a des questionnements sur la résurrection, est-ce qu'il ressuscite? Il y en a qui disent non, ben du coup, pour faire toute une démonstration, puis à la fin, la fin du verset 48, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Il parle de, bien sûr, ce qui est né de l'homme. Tel est le céleste, avec un E, tel au pluriel, sont aussi les célestes. C'est qui les célestes? C'est nous. 2 Pierre 1,4. Il parle de toutes les promesses qui ont été données afin que par elles vous participiez de la nature divine. Et quand on parle bien de l'Église, je vous rappelez-vous que quand Saul a rencontré le Christ, il disait, j'entendais une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est que Christ était, on parle du corps de Christ, mais là, il était complètement le corps du Christ. C'est fini, je suis désolé, encore, enfin, un petit peu encore, je suis bientôt au bout. Et je crois que de cette manière, la préoccupation première de Christ, c'est son Église. Bien sûr, il y a le monde derrière, mais c'est son Église, pourquoi? C'est son épouse. Et regardez le dernier livre de la Bible, la révélation de Jésus-Christ, c'est ce titre du livre. À qui parle en premier? Aux églises. Lettre aux églises. Et elle dit, lisez les unes des autres, lisez. On revient sur Ephésiens 5, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors bien sûr, parfois l'Église peut ressembler à... Et je pense que des fois elle est comme ça. Comme Christ, parfois, on peut le voir, qu'il a été jugé, condamné, mais son boulot à lui, c'est de nous faire paraître sans tâche, même si parfois on a tous nos défauts. Un peu plus loin, car c'est intéressant parce que c'est tout un dialogue avec le mari et la femme, et souvent c'est utilisé pour les mariages. Mais je voudrais vraiment que vous voyez l'Église derrière. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. C'est qui dit ça? C'est pas moi, hein. C'est la parole. Mais il la nourrit et en prend soin. Fin de la phrase. Comme Christ le fait pour l'Église. C'est l'Église, encore une fois, qui est là, présente. Plus loin, parce que nous sommes membres de son corps. Et fini verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'omniprésence de l'Église. Est-ce qu'elle a encore de la pertinence, de l'autorité? Est-ce qu'elle est-il encore aujourd'hui? Je vais prendre encore juste 5 minutes.
Ça, je vais.
En tout cas, dans tout Éphésiens 1, il y a tout ce passage où je voulais parler de ce que Dieu veut révéler, ses mystères, et c'est juste incroyable. Mais il dit qu'il a fait, il a ressuscité des morts, il a fait asseoir à la droite du Père. Et juste un peu plus près, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à qui? À l'Église. Précision, qui est son corps. Et cette phrase est juste incroyable, la plénitude de celui qui remplit tous, tout en tous. Son corps, nous, avec lui et lui avec nous. Pas juste lui, ensemble. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et chapitre 2, Paul qui dit, mais voilà, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Pour quel objectif? Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'Église est appelée à montrer l'infinie richesse de sa grâce. Un autre passage. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, et là on vient dans le présent, on parlait tout à l'heure de passé, présent et futur, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ. Là c'est Éphésiens 2, verset 9. Et c'est juste incroyable, on a une tâche, on n'est pas juste là pour se réunir. Peut-être on a oublié qui on était. Père, qu'il faut qu'on retrouve qui nous sommes. Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Alors, on sait que Christ va juger, mais que nous, nous sommes appelés à juger le monde, ça fait frissonner en tout cas. Moi, je ne suis pas prêt à ça. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et vous, là, assis, à un moment donné, vous participerez au jugement des anges. Et après, on ne pourra pas juger les choses de la vie aujourd'hui. Matthieu 16, mais moi je te dis Pierre que tu es. Moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église, sur la révélation qui est le Fils de Dieu. Et que les portes du séjour des morts ne prouveront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors oui, il faut retrouver l'église. Et pour moi, un des chemins pour retrouver l'église, c'est retourner à la croix. Là où tout a commencé. Si tu retournes au début, à la création de toute chose, tu ne peux que retrouver l'identité réelle, pas celle qui est cachée. Alors d'où vient l'Église? Qu'est-ce qu'elle est? Digne préoccupation. Je dirais que l'Église, elle n'est pas définie ou indéfinie par ce que nous pensons, par nos échecs, par nos erreurs, par nos défis, par des philosophies, ou même par nos réussites. L'Église, elle est parce que Dieu l'a créée. Point. Elle est née par la volonté du Père en Christ, par le Saint-Esprit. En cela, elle est une nature divine et éternelle, pas de nature terrestre et finie. Elle est au centre des préoccupations de la Trinité. Elle est son épouse. Elle est appelée à régner, à juger le monde et les anges, et à révéler en tout lieu la sagesse, la grâce, l'amour et la volonté souveraine de Dieu. Amen. Je vous propose juste qu'on prenne un temps maintenant, parce que peut-être que dans... Comme moi, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi de nouveau l'Église? On a besoin de faire le point. Donc on vient de passer une bonne demi-heure là-dessus, parce que 40 minutes me semble utile. On va juste prendre quelques minutes. Et peut-être que dans notre cœur, on a dit au Seigneur, j'ai accepté des idées qui ne sont pas de toi. Et c'est normal. Parce qu'on dans le monde, la pollution... je reprends l'image d'Isabelle la semaine dernière, quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a de la fumée, toi tu n'es pas fumé. Mais quand tu rentres chez toi, tu te rends compte que ça pue de la fumée. Et c'est insupportable. Quand tu as les habits de la veille qui sentent la fumée, tu dis, mais heureusement on n'est plus dans ces endroits-là, mais fut un temps, c'était... Mais comment c'est possible? Et tu ne te rends pas compte. Père, on vient ensemble avec toi et... Prie Saint-Esprit de venir travailler dans nos cœurs. Jésus de venir travailler. On va te demander pardon pour toutes les fois où on a consciemment ou inconsciemment accepté des idées qui n'est pas de toi. Sur cette église, on a peut-être dédaigné parce qu'on a vu un peu qu'on fait de brebis. Pas toujours très belle, un peu sale, un peu déchirée. Et on dit, mais ça c'est pas digne de toi, c'est pas un sacrifice de bonne odeur, c'est pas la brebis parfaite qu'on devrait amener. On te demande pardon quand on l'a jugé, quand on s'est énervé. Et on reconnaît que parfois l'Église nous a blessé, pas faire. On reconnaît qu'elle nous a parfois déçus, attristés. On reconnaît que ces sentiments aussi sont dans nos cœurs. Ce qu'on dit tout à l'heure, ben Jésus, reçoit favorablement les émotions de nos cœurs, nos pensées, nos paroles. Et on te demande pardon pour nos égarements. Parfois, on a oublié que tu as donné ta vie pour l'Église. Et on ne veut pas l'oublier, on ne veut pas devenir oublieux. On veut se rappeler. Alors, conduis-nous à la croix chaque fois, s'il te plaît, papa. Et on va déclarer que cette Église est juste merveilleuse. Qu'elle est digne. Parce que toi, tu la rends digne. Qu'elle est ton épouse. Et qu'on veut honorer ton épouse. Qu'on veut honorer ton épouse. Dans le nom de Jésus.